Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons quitté la jeune Marie-Thérèse, dite Madame Royale, alors qu'elle est emprisonnée depuis 34 mois dans la sinistre prison du Temple. À l'exception de la mort de son père, elle ignore tout du sort de ses proches. Depuis la mort de Robespierre, le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, sa situation s'améliore sensiblement. Mais cela signifie-t-il pour autant que l'on songe à la libérer? Pour l'heure, elle savoure le plaisir d'avoir enfin de la compagnie en la personne de Madame de Chantraine. Seconde partie, une lueur d'espoir. Quelle n'est pas la surprise de Marie-Thérèse de voir du jour au lendemain une inconnue lui faire la révérence et s'adresser à elle en lui disant « Madame ». Elle n'a plus l'habitude et se montre d'abord méfiante. Elle a aussi du mal à répondre, car depuis des mois, elle n'a quasiment aucun contact humain. 14 mois plus tôt, avec le départ de sa tante, Madame Élisabeth, la solitude lui a quasiment fait perdre l'usage de la parole et le son de sa voix est devenu si faible qu'on a du mal à la comprendre. Le jour où Madame de Chantraine lui est présentée, elle est vêtue d'un corsage trop petit et d'une vieille robe de soie grise très courte sous laquelle elle essaie de dissimuler ses pieds fort mal chaussés. De longs cheveux blonds tombent sur ses épaules. Elle est indéniablement jolie. Son teint est blanc, comme celui de sa mère, mais se trouve un peu gâté par des rougeurs sur les joues. Ses grands yeux bleus, les yeux de sa mère, donnent à son regard une expression d'étonnement et de mélancolie. De ses mains, que le froid de 3 rudes hivers a rougi, elle tricote un pauvre ouvrage fait et défait 100 fois, car elle ne possède qu'une petite provision de laine. Les jours passent et Marie-Thérèse s'attache à cette dame qui se montre si bienveillante. Elle écrit « Si l'on finit par mettre auprès de moi une personne qui ne soit pas un monstre, je sens que je ne pourrais m'empêcher de l'aimer. » Mise en confiance, Marie-Thérèse ose maintenant lui poser les questions qui la taraudent. « Où se trouve ma mère ? Qu'est devenue ma tante ? Où se trouve mon frère ?» Marie-Thérèse ignore tout de l'ampleur de la tragédie, mais Madame de Chantraine a ordre de ne répondre à aucune de ses questions. Enfin, le jour où elle est autorisée à le faire, il lui faut avouer à cette jeune fille de 16 ans, qui se croyait seulement orpheline de son père, que sa mère est morte, que sa tante est morte et que son frère est mort aussi. C'est un déluge de larmes. Puis pendant des heures, Marie-Thérèse reste prostrée. À partir de cet été 1795, ainsi que cela avait été le cas aux Tuileries, Marie-Thérèse devient un sujet de curiosité. Quand elle se promène dans le jardin de la Tour du Temple, en compagnie de Madame de Chantraine, de Coco, le chien de sa défunte mère, et d'une petite chèvre, des gens se postent aux fenêtres des immeubles des environs pour pouvoir l'apercevoir. Ces fenêtres sont louées à prix d'or. Marie-Thérèse est devenue une sorte de curiosité, d'animal de zoo, la seule survivante d'une espèce ou d'une race disparue. De loin, les dames font un hochement de tête ou esquissent une révérence. Parmi les curieux se trouvent même des peintres qui, munis de lunettes télescopiques pour pouvoir l'observer de plus près, font son portrait. Quel bonheur de pouvoir circuler librement dans l'enclos. Bientôt, on supprime la surveillance. La garnison, qui a comporté jusqu'à 250 hommes, est maintenant réduite à 15 hommes. Madame de Chantraine, ayant signalé le dénuement dans lequel se trouve Marie-Thérèse, on lui a fait porter, en plus des robes et des chemises, des souliers et des bas de soie. Et son instruction devient également le sujet du jour. La Convention ne saurait la remettre en liberté sans qu'elle ait reçu un véritable enseignement, car alors, à travers elle, c'est la Révolution elle-même qui serait durement jugée pour son ignorance. Marie-Thérèse est évidemment très demandeuse. Depuis de longs mois, elle s'ennuie mortellement entre ses quatre murs et n'a fait que relire indéfiniment les quelques livres dont elle disposait. Donc, elle est pleine de bonne volonté. Elle a envie de tout lire, de tout apprendre, d'échapper à l'ennui. Elle aime particulièrement le dessin. Durant tout le temps de sa captivité, elle n'avait le droit ni d'écrire, ni de dessiner. Elle ne possédait ni encre, ni crayon, ni papier, ni pinceau. Et voici que du jour au lendemain, elle reçoit tout cela à la tour du temple, ainsi que des livres. Pour retrouver une voix normale, elle lit à voix haute en articulant distinctement. En quelques semaines, le changement est notable. Madame de Chantraine surprend même Marie-Thérèse à esquisser un sourire furtif. Toute cette nouveauté distrait la jeune fille de sa mélancolie.
Ce n'est pas le bonheur, mais un heureux calme, un consolant espoir.
Marie-Thérèse approche de ses 17 ans. Elle semble revivre après avoir si souvent frôlé la mort. Et Madame de Chantraine lui est devenue indispensable. Elle s'est beaucoup attachée à elle, l'appelle Reinette. Et quand celle-ci doit s'absenter, Marie-Thérèse est dévastée, alors elle lui écrit aussitôt. D'une certaine manière, ces 6 derniers mois passés au temple sont paradoxalement l'un des moments les plus heureux de sa vie, parce qu'elle a retrouvé un semblant de vie normale et que se trouve enfin auprès d'elle un être bienveillant qui lui donne de l'affection. Autre heureux événement, elle est autorisée à recevoir la visite de Madame de Tourzel, femme de chambre de sa mère, accompagnée de sa fille Pauline, et de Madame de Macot, sa nourrice. Ces dames, elles aussi, ont connu la prison, mais ont réussi à échapper à la guillotine. Ayant obtenu la permission de rendre visite à Marie-Thérèse, elle traverse tout Paris à pied pour venir jusqu'à elle. Lorsque Madame de Macot est annoncée, la princesse se précipite dans l'escalier, sautant les marches 4 à 4, passe les guichets et se jette dans les bras de sa vieille gouvernante. Comme décidément, les temps ont bien changé. C'est dans le journal révolutionnaire Le Père Duchesne qu'est publié le récit des retrouvailles de Madame de Tourzel avec l'orpheline du temple.
À son entrée au temple, nous avions laissé Madame faible et délicate, et en la revoyant après 3 ans de malheur sans exemple, nous fûmes bien étonnés de la trouver belle, grande, forte et douée de cet air de noblesse qui fait le caractère de sa figure. Madame parlait de ses malheurs avec une douceur angélique et nous ne la vîmes jamais témoigner un sentiment d'aigreur contre les auteurs de tous ces maux. Puis elle ajouta, fondant en larmes et du ton le plus déchirant,
« J'aurais été plus heureuse de partager le sort de mes parents que d'être condamnée à les pleurer. » Madame Royale circule maintenant à sa guise dans toute la tour. Elle est devenue véritablement la châtelaine du temple et fait visiter le vaste édifice à Pauline et sa mère. Oui, les temps ont bien changé. Dans les négociations entre Espagnols et Français pour mettre un terme à la guerre qui oppose alors leur pays, les Espagnols, monarchie dirigée par un Bourbon descendant de Louis XIV, ont exigé la remise en liberté du dauphin et de sa sœur. Les choses ont été retardées par la mort du dauphin. Mais aujourd'hui, la France se déclare prête à faire reconduire à la frontière Madame Royale. En même temps, côté français, on se dit qu'il serait dommage de ne pas profiter de cette opération pour échanger Marie-Thérèse contre certains prisonniers politiques tombée entre les mains de l'Autriche, alors elle aussi en guerre avec la France. Autrichienne, Marie-Thérèse l'est par sa mère. Et lorsqu'elle sera libérée, c'est tout naturellement en Autriche qu'elle sera recueillie. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, dont elle porte le prénom, était sa grand-mère. Le 30 juin 1795 est voté le décret suivant.
La Convention nationale après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de sûreté générale, déclare que, au même instant où le maître de poste Drouet fait prisonnier sur les frontières de France et les ambassadeurs Marais, Sémonville ainsi que leur suite, arrêtés en Italie par les Autrichiens, seront rendus à la liberté et parvenus aux limites du territoire de la République, la fille du dernier roi des Français sera remise à la personne que le gouvernement autrichien déléguera pour la recevoir.
Le décret spécifie que lors de cet échange, les derniers survivants de la famille Bourbon, comme la femme et les deux fils de Philippe Égalité et le vieux prince de Conti, pourront également sortir de France. Les Autrichiens ne sont pas ravis de voir débarquer tous ces Bourbons. Cela va occasionner des dépenses. Le baron Thugut, premier ministre autrichien, propose de mettre l'embarrassante Madame Royale dans un couvent de Prague. Quant aux autres rescapés, eh bien, le roi d'Espagne n'a qu'à les accueillir. Le comte de Provence, frère de Louis XVI, qui avec la mort du petit Louis XVII est devenu roi de France, écrit à l'empereur d'Autriche qu'il juge très insolent et scandaleux de la part des révolutionnaires d'oser établir un parallèle entre sa nièce et les scélérats contre lesquels on va l'échanger, mais que, d'autre part, il voit là un moyen d'arracher sa nièce à son horrible captivité. Le futur Louis XVIII termine sa lettre en exprimant à l'empereur le désir ardent qu'il a de posséder la seule chose restant de ce qu'il avait de plus cher au monde. En réalité, il sait combien la présence à ses côtés de celle qui personnifie la tragédie du temple peut revaloriser ses actions et lui donner la popularité à laquelle il aspire tant. Toute l'Europe, semblant considéré comme un devoir pour l'Autriche d'accueillir la fille du roi martyr, l'empereur François II d'Autriche finit lui aussi par se dire qu'après tout, il pourrait récupérer Marie-Thérèse et lui faire épouser son frère, l'archiduc Charles de Habsbourg. Une dot lui sera probablement constituée par la République. Ou alors, elle pourrait recevoir en capitale la dot de la reine Marie-Antoinette qui n'a point été complètement acquittée. Enfin, des diamants de Marie-Antoinette ont quitté la France. Comme unique héritière, Marie-Thérèse pourrait bien les récupérer. Le futur Louis XVIII ne veut pas entendre parler d'un tel mariage, lui qui a bien l'intention de revenir en France avec Marie-Thérèse pour effectuer avec elle un retour triomphal dans les rues de la capitale. Marie-Thérèse va enfin être libérée. L'échange doit se faire à Huningue, ville frontière voisine de Bâle. Le départ est fixé au soir du 18 décembre 1795. Déjà, le prince désigné par l'empereur François II pour aller à sa rencontre se trouve à Bâle avec 6 carrosses, une suite nombreuse et une armée de domestiques. Les otages rendus par l'Autriche, Drouet en tête, Drouet, c'est l'homme dont le haut fait était d'avoir reconnu le roi lors de la fuite à Varennes, eh bien tous ces otages attendent à Fribourg depuis le 14 novembre. En France, le nouveau pouvoir, on est passé de la Convention au Directoire, a décidé que la fille du dernier roi voyagerait incognito jusqu'à la frontière. Un magnifique trousseau, commandé à l'ancienne couturière des Tuileries, doit être acheminé vers Huningue et sera remis à la princesse au moment de sa sortie de France, le jour du départ, veille de l'anniversaire de ses 17 ans. Aidée par Madame de Chantraine, Marie-Thérèse fait ses bagages. Elle emporte avec elle quelques menus objets ayant appartenu à ses parents, dont une humble paire de jarretières, fabriquée par sa mère avec du fil tiré d'une vieille tapisserie qui était sur le mur de la prison. Vers 5 heures, elle descend au jardin, fait une gracieuse révérence aux personnes qui, depuis les fenêtres, l'ont si souvent guettée. Vers 11 heures du soir, on vient la chercher. En quittant la chambre, elle jette un dernier regard sur ces deux pièces qu'elle a occupées depuis 3 ans et demi et où elle a vécu tant de moments atroces, de déchirantes séparations. Les yeux pleins de larmes, elle s'engage dans l'escalier. Le sinistre donjon du temple où elle a été prisonnière sera détruit en 1808. Sur le mur de l'antichambre, les ouvriers ont pu lire cette inscription tracée avec une pointe d'aiguille. Marie-Thérèse est la plus malheureuse personne au monde. Elle ne peut obtenir de savoir des nouvelles de sa mère, pas même d'être réunie à elle, quoiqu'elle l'ait demandé mille fois. Vive ma bonne mère, que j'aime bien et dont je ne peux avoir de nouvelles. Dans la chambre, près de son lit, deux lignes étaient crayonnées sur la muraille. Ô mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. Marie-Thérèse, l'orpheline du Temple, assistera à trois révolutions, quittera la France à trois reprises et subira 40 années d'exil. Elle vivra assez longtemps pour assister à la prise du pouvoir de Napoléon III. Chaque matin, pendant 60 ans, comme le lui avaient recommandé ses parents, elle priera pour le repos de leur âme et pour la France. C'est la fin de ce double épisode consacré à Madame Royale, l'orpheline du Temple. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.